Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler saison 2 vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct d'un triplex luxueux de Rosemont, Montréal, voici l'épisode 63. De Laurent s'écoute parler, ton podcast préféré et bientôt en nomination pour animateur de l'année, podcast sportif aux Gémeaux. J'imagine, tu sais, eux autres là aux Gémeaux, s'ils font bien leurs recherches, ils vont me trouver. Puis s'ils me trouvent, ils vont me nommer animateur de l'année. Là. Ce ne serait que rendre justice à la radio. On est au lendemain du combat de Clarissa Shields contre Marie-Ève Dicker et vous me connaissez, je suis à peu près, je ne sais pas si on peut appeler ça, parce que moi je me sens comme un éternel positif, mais à un moment donné, la positivité a quitté puis mon cerveau travaille, tu sais. Puis toute la semaine, je le savais que Clarissa Shields était bien trop forte pour Marie-Ève Dicker, mais c'est souvent ça avant le combat. Tu veux y croire pour pas scraper ta soirée en te disant « Hey, ça va peut-être je vais vivre l'histoire. » Puis tu veux te convaincre. Puis on essaie de te convaincre aussi via l'entraîneur, via le promoteur. On a un plan A, B, C, D. C'est la meilleure version que vous aurez jamais vue. On a eu 15 mois pour se préparer. On a un plan. Elle va être surprise. On va piéger. Puis là, tu finis par te dire « Mais coudonc, est-ce juste moi qui n'ai pas vu quelque chose, tu sais? Un entraîneur de Québec va écrire sur Facebook avec un plan, tout peut arriver. Puis là, moi, je me dis, man, ces gens-là, ils vivent du monde de la boxe. Toi, t'es qui? T'es qui le postier pour remettre tout ce monde-là en défaut? Fait que là, je finis par pas plus y croire, par exemple, tu sais. Je croyais pas pantoute, mais je me dis, ah, peut-être je vais me faire surprendre, peut-être je me suis trompé. Ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me trompe une fois dans ma vie. Fait que là, je m'installe devant le combat d'un... Je vais compter tout de suite. On va y aller avec l'introduction. Je m'installe devant le combat, puis là, je me dis... Premièrement, toute la sous-carte était pourrie, genre. C'était des combats mal balancés. Tu sais, mais Clarissa Shields, elle veut vendre la boxe féminine, puis elle nous passe plein de mismatchs disgracieux en sous-carte. Mais je l'avais commandé en français avec... Jean-Paul Chartrand puis Bernard Barré, puis tu sais, étrangement, je vais vous le dire, j'ai passé une bonne soirée. Moi, j'étais un fan de Jean-Paul Chartrand, j'ai du respect pour un monsieur de 93 ans qui se lève le matin puis qui continue à aller animer à boxe, tu sais, qui finit à minuit le soir puis qui a pas l'air fatigué puis que la voix a tenu. Hey, il a 91 ans, le bonhomme, là. Bravo! Comptez pas sur moi pour faire de l'âgisme à 91 ans. On devrait tous encore travailler. Fait que j'écoutais ça, puis ils m'ont diverti. Tu sais, sauf c'est juste que moi, j'ai été déçu par la performance. Je m'attendais à ce qu'il y ait un monde entre Clarissa Shields puis Marie-Ève Dicker, mais je m'attendais pas à ce que le monde soit si grand que ça, mais on va en reparler au cours de l'épisode de Chronique Marie-Pierre Hull. J'ai eu une excellente semaine au travail. Mon doigt cassé est complètement réparé. Ma main s'est réparée tout seul. Quand t'es un athlète, c'est ça, hein, les choses s'arrangent. Sur le point de vue vie personnelle, tout va très bien. Je mouche un peu, mais c'est ça. Fin de la chronique Marie-Pierre Houle. J'ai été enragé un peu toute la semaine parce que je trouvais que la couverture médiatique était faible sur le combat de Shields contre Dicker, qui est un combat d'unification complète. Puis là, au travail, quand j'ouvre mon baladeur, là, je sais que mon boss m'écoute pas. Aussi. Il m'écoute pas quand je parle à la job, il doit pas m'écouter quand je parle sur un podcast de boxe. On a plus le droit au baladeur. Okay? Fait que quand j'écoute mon baladeur, là, je me cache, okay? Je me faufile une tuque en disant que j'ai froid. Mais en supposant que j'ai froid. Là, je mets une oreille en dessous, puis j'essaie d'écouter, d'emmagasiner de l'information le plus possible. J'essaie de rendre le temps où je triche productif. T'sais? Puis là, j'essayais de pogner des affaires sur Dicker Shields, essayer d'apprendre des choses. Et tout ce que j'ai appris, c'est que Stephen Waite s'est fait congédier en deux périodes. Mais ils en ont parlé, là, je vous le dis. Pendant 3 jours, et si tu fais de congédier entre la 2 et la 3, à la fin de la 3, comment ça s'est fait? Qui est allé voir qui? C'était un courriel, un message texte. Et c'était la suranalyse de Stephen Waite, là, c'était de la folie furieuse. Là, après ça, c'était Sean Burke. Ils ont passé, je pense, 8 heures à se demander dans quel hôtel Sean Burke va faire sa quarantaine, le nouveau directeur des gardiens de but. Et là, je me suis demandé, parce que moi, j'étais en colère sur la couverture qui était trop faible pour Dicker contre Shields. Et là, je me suis posé la question suivante. À qui je dois en vouloir? Est-ce que je dois en vouloir aux médias qui en donnent pas assez d'espace au monde de la boxe? Ou est-ce que je dois en vouloir au public qui, lui, veut simplement être informé du Canadien? Mais même du 7e étage, puis même des rumeurs de balcon. Tu sais, est-ce que c'est, dans le fond, est-ce qu'il donne au public ce qu'il veut, ou est-ce que c'est la radio qui continue à gaver le public? T'sais? Moi, s'il y a un restaurant qui ouvre au coin de ma rue, puis qui vend de la luzerne avec du poulet bouilli, mais que tout, ils font faillite, puis la semaine d'après, ils rouvrent un magasin de poutine, puis tu sais, tout le monde demande extra fromage, plus de sauce, puis. Le plus de gras possible. Est-ce que je vais crier dehors, faire une pétition contre la malbouffe quand dans le fond c'est le peuple qui veut de la poutine, tu sais, on donne au peuple ce qu'il veut, c'est tout, genre c'est l'offre et la demande. Fait que, est-ce que j'en veux aux médias d'avoir boudé le combat, ou est-ce que j'en veux au public de continuer à vouloir être gavé du Canadien de Montréal? Je sais pas à qui en vouloir. C'était Laurent s'écoute parler. L'éditorial.
Tout comme Monsieur Patate, au resto-bar le coin du métro, nos ailes de poulet sont non-genrées.
Il y a une affaire que je veux vous dire absolument sur la boxe féminine ou la boxe en général. T'sais, des fois, j'ai l'impression que c'est complètement mort. Suffit d'un combat important pour que je reçoive une tonne de... Hey, Laurent, t'as-tu un lien? Là, hier, j'y allais, tu sais, je donnais le fit.tv. Là, le monde me répondait, merci, mais t'as-tu un lien gratuit? Non. Puis, j'ai fait ça, moi, toute ma vie, avec le cinéma, avec le rap. J'ai écouté une tonne, j'écoute encore beaucoup de rap québécois, moi... Un moment donné, j'avais 16 ans, j'étais allé au Vidéotron. Il y avait l'album de Keith Selamenopi avec 2 fusils qui est sur la pochette. Puis j'avais 15 ans. J'ai demandé à mon père, « Papa, peux-tu m'acheter l'album? » Puis il a fait comme, « Ouais, mais c'est parce que le monsieur, il a des fusils sur la pochette. » Puis j'ai dit, « Fais-toi-en pas. Je suis assez grand maintenant pour être diverti par du rap à connotation violente sans devenir quelqu'un de violent. » Il a été impressionné par ma réponse, puis il m'a acheté l'album. Depuis ce temps-là, là, il y a juste du rap qui passe dans cette tête-là. Okay? Demandez-moi pas qu'est-ce que je pense de Guns N' Roses. J'en ai jamais écouté. Ma vie, c'est box, rap et jeux vidéo. Okay? Je sais que ça fait pas très 39 ans. Vous venez de comprendre que je suis célibataire. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi je vous ai conté ça. C'est comme une thérapie, moi, le podcast. Puis là, hier, je m'installais devant ce gars-là de boxe féminin. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui l'ont commandé, là, parce que c'est ça, tout le monde voulait des liens gratis, bande de pauvres. Puis ceux qui l'ont commandé, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, c'est pas représentatif de la boxe féminine. Là. C'était une bizarre de sous-carte, OK? Premièrement, j'étais un peu en colère après Marlène Esparza, qui est une superbe boxeuse. Mais à ces pointés-là qu'une bédaine, OK? C'est une fille de qui boxe chez les 118 livres, qui était une rivale de Kim Clavel chez les amateurs. Elle s'est pointée là à 130 livres avec une bédaine. Elle a 25 ans, c'est une athlète. Elle n'a jamais eu de bédaine de sa vie. Je comprenais pas. C'est un peu comme si, mettons, Kim Clavel sortait du loft. Puis là, Kim qui se bat à 108 livres, elle prenait un combat à 126. Elle se promenait avec un Michelin après en dessous, en haut du costume. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que tu faisais là avec ta bédaine en pleine télévision? Tu sais? Fait qu'elle a gagné. Elle a gagné. Unanimous decision, mais là, imaginez, là, la carte pay-per-view, c'est 4 combats féminins, OK? Il n'y a pas une adversaire qui a gagné un combat. On se serait cru au casino en 2014, OK? Ça n'a aucun bon sens. Marlène Esparza gagne tous les rounds contre Shelley Barnett. Barnett, elle avait des bonnes intentions, mais c'est tout. Après ça, Danielle Perkins, elle avait déjà perdu 40-35. Monica Harrison avait déjà perdu 40-35 contre Perkins. Elle s'était fait déclasser. Ils l'ont ramenée. Puis ça, c'est ce qui arrive souvent en boxe féminine dans les catégories comme les poids lourds. Il y a 5 boxeuses dans le monde. Okay? Fait que quand tu en trouves une là, qui accepte de t'affronter, ben, tu montes ta fiche et tu l'affrontes 6-7 fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a pas beaucoup. Jamie Mitchell, qui est une fille de 120 livres, qui avec 5 victoires, 0 défaite, mais 2 combats nuls, sans venir des équipes nationales, était vraiment bonne. En tout cas, je sais pas si c'est parce que son adversaire était pouiche, mais elle avait les mains vives, elle se déplaçait bien. Moi, je l'ai trouvée bonne, Jamie Mitchell, mais elle affrontait une fille de 12-15 qui n'avait pas d'affaires dans le même ring. Fait que vous voyez 3 combats, personne qui gagne dans les adversaires. Après ça, on se dirige en finale. Et là, Clarisse Hushes va affronter Marie-Ève Dicker. Puis, je vais vous le dire, là. Moi, j'étais fâché un peu, tu sais. Je comprends, là, mais qu'on veut tous y croire, qu'on aime Marie-Ève, tout ça, mais Hushes était beaucoup trop forte pour Marie-Ève Dicker. Juste regarder les statistiques. 5 jabs réussis sur 95. À peine lancé des coups de poing. Moi, hier, pendant l'avant-match, j'ai rappelé Roy Jones contre Eric Lucas. Pour moi, là, c'est Roy Jones contre Lucas 2. C'est, j'aime la boxe québécoise. Je veux croire en nos boxeurs. Puis je veux les médiatiser via le podcast. Puis via toute la grosse multinationale que moi puis Vincent Tremblay, on est en train de créer. Mais pour jouer dans l'élite, il faut se rendre compte que ça va être rare que ça va arriver. Tu sais, c'est sûr que tu peux aller chercher des boxeurs à l'étranger puis les naturaliser québécois comme Arthur Beterbiev. Puis là, on se dit, hey, on en a un bon Beterbiev, OK. Tout aussi québécois que nous autres. Baptiste Jukanbaev, c'est un Québécois. Il habite en Californie, il est né au Kazakhstan puis il paye ses impôts aux États-Unis. Tu sais, ça fait un peu colon de dire ça, mais c'est juste que pour avoir des bons boxeurs québécois, il faut vraiment étirer l'élastique. Mais je parle de ceux qui vont sortir de la FQBO, puis nos programmes de développement qui vont pouvoir jouer avec l'élite. Tu sais, je parle de Jean-Pascal, je parle d'Adonis Stevenson, je parle de David Lemieux. Ils vont en passer, pour jouer avec l'élite, là, je vous dirais, 2, 3, 4 ou 10 ans. Tu sais. Fait que ça sera pas simple. Là. Puis on l'a vu Dicker, oui, elle est bonne, oui, elle était championne, mais pour moi, elle peut pas jouer avec l'élite. L'élite, c'est Clarissa Shields. L'élite, c'est pas Maria Lindberg, c'est pas Michaela Loren, puis c'est pas Ogledis Suarez. On a pris une fille qui est certes très bonne en du cœur. On l'a surprotégée au Casino de Montréal avec un vieux promoteur aguerri comme Yvon Michel. On a plus souvent qu'autrement, puis moi je me suis fait critiquer pour ça, mais on a plus souvent qu'autrement signé des adversaires à l'extrême dernière minute. Francis Paquin avait fait un texte où 6 des 7 derniers adversaires de Dicker avaient été signés à moins de 2 semaines. C'était toujours du remplacement. 3 fois, ça n'a pas marché qu'une fille qui s'appelait Katia Alvarino. Puis on trouvait des remplaçantes. c'est que tout avait été mis en place pour faire bien paraître Dicker, pour la faire gagner, puis pour la faire monter au classement. La seule fois où on peut dire qu'elle n'était pas classée A ou B, que c'était plus serré, c'était à Québec contre Namus, mais encore là, elle était chez elle, avec des juges qui étaient québécois, je pense, ou international, mais des juges qui ont peut-être été un petit peu en sa faveur, mais je pense pas. Elle avait bien gagné contre Namus, mais c'est la seule fois qu'on peut dire « Wow, elle a battu Namus ». Sinon, là, il n'y avait rien, il n'y a rien nécessairement sur sa fiche. Puis je ne veux pas paraître plus négatif ou, tu sais, jeter de l'eau dans la soupe. Mais pour moi, il n'y avait pas de surprise hier. Une fille qui a gagné deux Olympiques, qui a marché sur tout le monde. Écoutez, là, Ariane Fortin, c'est la meilleure amateur qu'on a eue. La meilleure boxeuse amateur, la meilleure boxeuse olympique de l'histoire du Canada avec Mandy Bougeau, probablement chez les femmes. Puis, tu sais, Shields a 3 victoires contre Ariane Fortin. Mais j'ai écouté Ariane Fortin, elle se défendait vraiment bien. Mais Shields, c'est trop pour tout le monde. Tu sais, elle est trop vite, elle est trop précise. Elle se fait pas toucher en défensive, même si elle est proche. Puis, je vais en parler. Je vais faire une capsule vidéo dans l'après-midi. Je vais le mettre sur Boxing Town. Je vais parler à Vincent Morin. Est-ce que c'était dans son style? Moi, je suis pas un expert, mais je lisais les experts sur Internet. Puis, Marie-Ève, ce que j'ai lu, c'est qu'elle multipliait beaucoup trop les feintes de la tête. Tu sais, ce qui vient, tu te fatigues, là, à force de bouger le haut du corps. Puis, elle feintait quand elle était dans une distance trop loin. Fait qu'elle était trop loin pour frapper Shields. Shields savait que, dans son contrôle de la distance, Dicker pouvait pas l'atteindre. Puis, elle la voyait multiplier les feintes de la tête. Fait que là, elle se disait, ben, t'es feinte dans le vide, là, t'as l'air d'un bobolet qui est trop loin de moi pour me frapper. Fait qu'elle la laissait comme feinter, laissait dépenser son énergie, puis là, elle l'attendait. Là, Dicker finissait par rentrer à l'intérieur, lancer son jab, qui d'ailleurs, 5 en 95, un moment donné, ma question, c'est si vous allez trouver ça bizarre, là, parce que le jab, c'est le coup le plus important de la boxe, mais quand t'es 5 en 95, est-ce que ça peut devenir une stratégie d'arrêter de le lancer? Là, à la limite, tu le lances, tu fais juste t'ouvrir à la contre-attaque, à la claque, parce que à la main gauche par-dessus ou la main, tu sais, la main droite en plein front, parce que tu n'as plus de défensive, puis ton jab va pas frapper la cible, il va pas préparer ta main arrière parce que l'autre est trop vite, puis à contre-attaque sur ton jab. Puis 5 en 95, là, c'est 1 sur 19, et qui passe jamais. T'es-tu mieux d'arrêter de le lancer puis aller straight avec ta main arrière? Je sais pas, moi, je suis pas un statisticien, mais c'est juste qu'on arrive, on a un plan A, B, C, D, t'sais, ils nous ont chanté à la pomme toute la semaine, mais je sais pas, il était où ton plan B, parce qu'elle a continué, t'sais, ce qu'elle a fait au premier, elle l'a fait pendant 10 rondes, puis elle a pas gagné un round. Mais à la limite, c'est Clarissa Shields. Mais moi, j'aurais aimé que Marie-Ève s'élève puis qu'elle paraisse mieux que des filles comme Abazin, Hammer, Gabriel, mais finalement, tu sais, apparaît comme en plein milieu de peloton sur les adversaires. Rien de plus, rien de moins. Tu sais, elle se détache pas. Puis ce que j'ai répété depuis le début de ce combat-là, c'est que Marie-Ève va sortir grandie pour avoir augmenté sa valeur. Mais après le combat, je vais vous dire non. Elle n'a pas augmenté sa valeur. Elle n'a pas ouvert les yeux des Américains. Je ne sais pas comment ils vont la réétablir. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont patenté un contrat où tout de suite, Shields va abandonner un titre puis elle va y retourner en championnat du monde. Tu sais qu'il y avait des clauses clés dans le contrat où probablement que le prochain combat de Dicker va être contre Raquel Miller pour le titre de la WBA. J'ose espérer qu'il y a de quoi comme ça, qu'il y a un plan B, qu'il y a une suite des choses, parce que je vois pas comment qu'elle va pouvoir vendre au Québec en ces temps de pandémie où tu peux pas mettre personne dans la foule. Puis je vois pas comment elle peut devenir une star des pay-per-view. T'sais, elle a pas le style pour que les gens payent 70$ au Canal Indigo quand elle affronte des filles du calibre de Ogledis Suarez. Fait que ça va être intéressant de voir la suite des choses. Pour le reste, je peux pas dire. Je peux juste dire bravo pour le courage, par exemple. Tu es championne, t'acceptes d'affronter la meilleure au monde. Wow! Rien à dire de plus, puis tout le monde devrait s'inspirer de ça. Mais je suis un peu déçu de... Je suis pas déçu. Tu sais, je suis déçu de la performance. J'ai rien contre Marie-Ève, mais tu sais, j'aurais aimé un combat serré, j'aurais aimé y croire, j'aurais aimé voir qu'elle a des chances, j'aurais aimé voir des ajustements, puis j'ai rien vu de ça. Ça a juste été le Clarissa Shields qui fait une balade dans le parc.
Pour moi, Ricky Martel, c'était tout à vu. Ils disent que c'est champion de la AWA. Le champion, c'est moi qui l'a, c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a un autre.
Je sais que vous me trouvez probablement fatiguant avec mes interludes, là, mais Tarzan la bottine Tyler, c'est la plus belle chose qui est arrivée à la lutte québécoise. Quand il est devenu manager, je trouve tellement drôle. Je peux passer des soirées à écouter Tarzan la bottine Tyler, ce qui explique, encore une fois, mon célibat. Nouvelle à l'international, on va revenir un peu. J'ai pris des notes cette semaine, là, je suis rendu un vrai professionnel du podcast. Andy Ruiz va affronter Chris Areola le 24 avril. Puis je vais vous admettre une chose. Je vais être le premier devant mon téléviseur, okay? Parce que Andy Ruiz, il est rendu musclé, là, il s'entraîne comme un animal. Chris Areola, il a un gros nez. Mais il lance du volume, il est courageux, il a un bon menton. À chaque fois que tu penses qu'il est mort et enterré, il fait une bonne performance. Ça, c'est un genre de combat où le 24 avril, tu as le droit de sortir. T'amènes une couple d'amis au coin du métro, t'amènes pas tes ailes de poulet, là, Costa va être fâché. T'achètes des ailes de poulet, tu prends une coupe de bière, puis là, tu dis au monde, ça sera pas élégant, mais on va rire, puis ça va être drôle, ça va être bon, ça va être une belle bagarre. Andy Ruiz, Chris Areola, assurément une bonne bagarre. Lomachenko, c'est l'homme, on dirait que tout le monde veut le craquer maintenant qu'il a perdu contre Teofimo Lopez. Il y a des rumeurs qui négocient avec Devin Haney, mais vous allez voir, Devin Haney, je l'ai plus loin aussi dans mes nouvelles du jour. Hier, il y avait un bon combat entre Tony Yoka et Joel Tamboué. Jeko, ok, ça s'est fini au 12e par knockout. Jeko, qui est un Belge qui vient des 200 livres, il a giflé Tony Yoka à peser, puis il a manqué de respect toute la semaine, il a joué dans la tête. Mais ce Jeko-là, qui devait être une victime facile, hey, il s'est bien battu dans le premier round. Il avait un bon jab, il avait même son jab, il sortait rapide, là. Son jab était plus rapide que celui de Yoka. Il sortait le jab, ting, 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 il se promenait sur le ring. Laurent Poulin, bruiteur. Puis finalement, mais Yoka avait trop de boxe. Là, un moment donné, il s'est mal lancé à la grosse droite, puis il a ramolli Jeko, il a tout pété à la face. Puis au 12e, Jeko, un moment donné, il n'en pouvait plus après une grosse droite. Il s'est tourné, puis s'est à côté d'un corps, puis il regardait dans le bar. Là, Yoka, il n'a pas frappé un gars tourné. Là, l'arbitre, il a dit, ben, ce gars-là, il a plus de vouloir, il a arrêté le combat. Puis là, finalement, mais malgré la gifle puis tout, les deux se sont mieux entendus. Ils ont fait la paix sur le ring. Puis je trouvais ça beau. Fait que Yoka est rendu 10-0. Il commence à parler. T'sais, Yoka, il parle de Chichora. Il parle de Andy Ruiz. Il commence à nommer des meilleurs noms. Ça va être à suivre dans son cas. C'est clair que ça s'en vient. Demetrius Andrade a signé contre Liam William, moi, je l'adore. Il est super bon. On dirait qu'il arrive toujours un malheur. Puis Andrade, ben ça continue, là. Il fait jamais de méga combats. Il fait toujours des Liam William le 17 avril prochain. Yogi Fury affronterait David Price. David Price qui, lui, s'obstine, refuse de prendre sa retraite. David Price qui frappe, je vous le dis, là, allez voir ça. Là. David Price, il frappe avec des marteaux dans les mains, mais il peut perdre une bagarre d'oreiller à cause de son menton. Vraiment, vraiment spécial, David Price. Un gars de 6 pieds, 9 pouces avec une claque terrible. À peu près aux 48 heures, il y a des sites concurrents à celui de Boxing Town Québec qui annoncent que c'est officiel entre Joshua et Tyson Fury. Ça fait beaucoup de likes, surtout quand tu le publies aux 72 heures, parce qu'on croirait que ce combat-là il a été signé à peu près 26 fois depuis janvier. Attendons l'annonce officielle, mais Eddie Hearn continue à dire que c'est sur le point d'être signé. David Haney, lui, qui est vu comme un futur adversaire de Lomachenko, a une entente pour affronter Jorge Linares en mai. Un autre combat très intéressant sur DAZN. Mickey Garcia et Manny Pacquiao, on s'approcherait d'une signature. L'impression qu'il y a beaucoup de ces duels-là d'importance qui attendent d'avoir pouvoir pacter le public, de pouvoir vendre des billets avant d'avoir lieu. Comme notre ami petit Jean Pascal. Tu sais, Jean, il aurait déjà boxé, là. On est rendu. On approche avril, Jean va avoir le plus long linge. Le plus long que je vais respirer. Jean va avoir le plus long règne de champion du monde. Ce ne sera pas battu au travers, mais ça, c'est pas grave. Ça me rappelle quand CM Punk était champion à la lutte, puis il disait, ça fait 453 jours champion. Là, Vince McMahon disait, ouais, d'ailleurs, il faudrait que tu défendes ton titre des fois. Puis là, il disait, bah là, j'ai un papier de médecin, je me suis viré à la cheville. Puis à chaque semaine, c'était comme le gag, il se trouvait une raison pour pas boxer, mais son règne continuait, tu sais, il arrivait avec des graphiques, 470 jours. Ah ouais, sauf que là, j'ai mal à l'estomac. Fait que ça me faisait rire, mais Jean-Pascal, j'imagine un jour tu vas te battre. Caleb Plant, lui, va se reposer la main et attend son combat contre Canelo en septembre. Beaucoup de rumeurs de Golovkin qui se serait retiré d'un combat contre Germal Charlo, t'es pas satisfait des montants d'argent. On commence à dire que Golovkin, il va doucement avec sa fin de carrière, là, t'es rendu à 38 ans. Derek Chisora contre Joseph Parker dans un combat où tu veux pas manquer ça le 1er mai. Ça va être un slugfest terrible. Jeudi soir, j'ai gagé 35$ sur Brandon Adams pour en gagner 90, je pense. Puis Adams, il perdait les 8 rondes de suite, puis il a knocké Sergei Boachuk. J'ai pris l'argent, puis je me suis acheté un petit cadeau. Toute une histoire. Des fois, je gagne avec mes paris, là, mais c'est quand même assez rare. Canelo Alvarez va affronter Billy Joe Saunders le 8 mai, et ensuite va affronter Caleb Plant pour unifier complètement les 168 livres. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on a une tonne de 168 livres. Fait que tu laisses Canelo tout ramasser les ceintures. Après ça, tu sais qu'il va pas les défendre, mais il va pas attendre comme 6 mois avant de les abandonner. Fait que là, Canelo ramasse toutes les ceintures en septembre. Tu sais qu'il va les abandonner autour d'avril. Fait que moi, mon message pour Antonin Descari et Camille Estéphane, placez tout de suite le mieux Mbili puis Bazinian dans les top 3 de 3 divisions différentes. Attendez, puis vous allez collectionner les combats de championnat du monde en 2022. Et si vous avez besoin de moi comme fin stratège, vous me donnez le même salaire que j'ai au bureau de poste, vous payez mon déplacement et je deviens stratège pour Eye of the Tiger à contrat sans aucun problème. Là. 10 heures par semaine à mon salaire de bureau de poste avec la limousine incluse. Et je viens tout vous donner mes idées. Là. Genre de me faire engager. Il me semble que un génie comme le mien, c'est pas supposé être sur les fils de les lignes de côté. Philippe Ergovitch vise Anthony Joshua. Je vais vous conter une histoire terrible. Philippe Ergovitch avait signé. Pas signé, mais avait une poignée de main pour venir boxer au Québec avec le groupe Yvon Michel. C'était réglé, se serait entraîné avec Marc Ramsey qui connaissait via, je pense c'est Pedro Diaz, puis en tout cas ça aurait été effrayant, un médaillé de bronze olympique, puis finalement il s'est rendu compte qu'il neigeait ici, puis je pense qu'il est en Californie ou quelque chose comme ça. Ergovitch qui est 5e à la IBF et qui va affronter Michael Hunter. Il commence par battre Hunter avant de parler d'Anthony Joshua. T'en as un bon, ses mains. Puis Carl Froch, lui, rêve de sortir de la retraite pour affronter Jake Paul. Ça va être pas mal mon seul commentaire sur ça. Et André Ward, de plus en plus d'informations qui disent qu'il est en entraînement et qu'il pourrait se laisser tenter. Mais moi, je connais le bon vieux André. Hein? Ça va prendre un 50 millions canadiens, sinon il sortira pas de la retraite. Et après la pause, je vais vous faire une pause, là. On reçoit Frédéric Gagnon sur l'histoire de la boxe québécoise où on a essayé de faire la chronique ensemble. Vous allez voir beaucoup de péripéties. Lui, il n'a rien de peuplé le Québec. Ses enfants ont besoin de lui pendant la chronique. C'est un cauchemar pour la post-production, mais on reçoit Frédéric Gagnon. On reçoit, c'est aussi un de mes bons amis, c'est notre chroniqueur vedette, Frédéric Gagnon, qui est en direct. Peux-tu saluer la foule?
Ben ouais, salut tout le monde, salut Laurent, ravi d'être en direct avec toi.
Des millions de personnes. Frédéric vient nous parler de chronique boxe féminine, mais avant, à chaque fois que je t'écoute, à chaque semaine, après ça, je prends une tonne de notes. Et là, je voulais te surprendre. Aux prochains Jeux olympiques, Kane Tanaka va faire un 100 mètres. Elle a 118 ans. Elle va faire un 100 mètres en chaise roulante avec la torche olympique. Elle va se lever. Elle va faire les derniers mètres à pied. Elle vient de s'acheter une nouvelle paire de souliers et elle a travaillé 94 ans d'un magasin de riz. Ça, c'est plus long que ma carrière au bureau de poste.
Ouais, mais surtout, imagine tout ce qu'elle a vu dans sa vie, là.
Elle est plus vieille que l'aviation.
Non, mais c'est ça. Elle a déjà pris des bateaux pour traverser le Pacifique, tu sais.
Voilà, alors, ta chronique boxe féminine, qui est, on va se le dire, là, on enregistre la même journée que le combat de Dicker Shields, parce qu'on a tellement hâte qu'on règle tout ce qu'on a réglé pour que le combat arrive plus vite. Donc, on ne fera pas à croire qu'on a vu le combat, on ne l'a pas encore vu. Impressionne-nous avec ta chronique boxe féminine.
Ben oui, certain. Ben c'est surtout les femmes qui m'impressionnent. Puis c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là cette semaine. Évidemment, le gros combat de ce soir, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de bonnes boxeuses actuellement là, à l'international et au Québec. Et surtout, c'est la journée internationale des femmes lundi, le 8 mars. Alors, je sais que même le combat, là, j'avais déjà vu qu'il était planifié l'an passé là, au mois de mars. Justement, là, il voulait faire coïncider ça avec la Journée internationale de la femme. Donc, si on va dans l'histoire de la boxe féminine, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une fois, il y a plein de parallèles entre le féminisme, en fait vraiment le combat pour l'égalité des genres, et l'histoire résiliente de la boxe féminine. J'ai décidé de commencer ça en fait en 1904. Ça a commencé avant la boxe. Il y a eu Elizabeth Wilkinson, il y a eu un premier combat féminin professionnel US, mais la boxe, il y a une date de naissance un peu avec les Jeux olympiques 1904, c'est en démonstration côté masculin et féminin, mais la boxe féminine n'est pas retenue. Alors qu'en 1911, c'est justement là qu'il y a eu la première journée internationale des femmes. Donc là, c'était un peu l'essor du féminisme, mais au niveau de la boxe, c'est vraiment difficile et c'est une série de décennies où est-ce qu'on peut pas organiser des combats. Où est-ce que les associations de boxe amateur sont interdites, sont prohibées. Donc, c'est vraiment difficile pour les femmes d'évoluer là-dedans. Ils ont pas d'infrastructure. Ils peuvent pas boxer, évidemment, contre des bourses. Et même, ils doivent quasiment se cacher pour s'entraîner. Le premier événement marquant, c'est dans les années 20. La boxe a beaucoup commencé au Royaume-Uni. Mais c'est un des premiers endroits que les villes commencent à interdire les combats. Alors, même quoi, à la même époque, là, on se rappelle, c'était les débuts du droit de vote pour les femmes. Puis au Royaume-Uni, eux, c'est assez drôle ce qu'ils ont fait. C'est en 1918, donc ils étaient un peu précurseurs du droit de vote, mais c'était pour les femmes de 30 ans et plus qui avaient une maison. C'est des drôles de... Je sais pas comment ils sont arrivés à ça, mais ça fait des drôles de limites. Finalement, ils ont rendu ça légal pour tout le monde.
Et, faut payer ta taxe de bienvenue pour avoir le droit de boxer.
Ouais, c'est ça. C'était comme pour le droit de voter. C'était comme si t'as de l'argent, tu peux voter. C'était comme on se dit, si t'es pauvre, puis un peu jeune, tu sais, 22, 23 ans, t'es pas prête. C'est ça, la même chose pour la boxe. Et là, vraiment, les femmes voulaient organiser des combats. Puis t'as une première boxeuse qui est Barbara Buttrick. Je sais pas si t'as déjà entendu le nom, Laurent.
C'est-tu celle qui mesure à peu près 4 pieds 11?
Ah ben, c'est pas à peu près exactement 4 pieds 11. Et c'est vraiment toute une pionnière. Je vais vraiment résumer son histoire rapidement, mais c'est vraiment quelque chose. Elle, justement, est toujours vivante, donc elle est toujours d'origine anglaise. Et elle est née en 1929.
Ça change pas les origines, ça, Frédéric?
Non, c'est ça. Mais je pensais qu'elle était décédée parce que, tu sais, c'est ta carrière, c'est dans les années 50. Fait que tu te dis, belle carrière, t'sais, malheureusement, elle est décédée. Et non, elle est toujours vivante, même que l'an passé, elle a été intronisée au temple de la renommée de la boxe.
Je pense aussi que ce qui revient souvent avec elle, je pense que ça a été le premier combat féminin télévisé.
Ah, c'est ça, exactement. Tu as des bonnes références. 1954. Puis en fait, là, pour se rendre là, ce premier combat-là, puis c'est là que l'histoire est intéressante pour elle. Donc, elle est en Angleterre. Elle pouvait pas se battre officiellement. parce que je vous l'ai dit, les combats étaient interdits par les villes et le gouvernement. Même le secrétaire d'État de l'époque, donc un des postes les plus prestigieux de l'administration anglaise, avait dit « Je ne peux pas imaginer pareille disgrâce dans ce pays. » Donc, c'était vraiment ardu pour elle. Et sa seule solution, c'est qu'elle embarquait dans un carnaval itinérant et elle faisait le tour des villes de l'Angleterre et de la France où est-ce qu'elle se battait contre des spectatrices. Donc, c'était vraiment, c'était pas bon pour elle, c'était pas bon pour la boxe en général. Et elle a dû partir pour les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu ne peux pas avoir de permis de boxer. Donc, encore là, c'était pas facile, mais au moins, il y avait des combats, dont son premier combat télévisé en 1954. Et elle est même devenue championne du monde pour mouche et coq, donc deux catégories. Et c'est vraiment elle qui a lancé, puis c'est comme j'ai mentionné tantôt, elle vient d'être intronisée au Temple de la Renommée, donc une belle reconnaissance. C'est quelqu'un, justement, c'est un petit parallèle que je voulais faire, c'est quelqu'un qui travaillait à temps plein en même temps qu'elle était championne du monde et elle faisait du 8 à 5, puis elle devait aller s'entraîner le soir, puis elle n'a jamais pu vivre de ça. Et c'est entre autres parce qu'il n'y avait pas de permis de boxer, pas de licence de la part des commissions.
C'est un peu comme moi là, qui a le meilleur podcast au Québec, mais qui est obligé de poinçonner sa carte à Post Canada chaque jour.
Ben c'est ça, tu sais. Puis en plus, on sait c'est pourquoi, hein, ça. On sait que c'est une discrimination qui t'est appliquée. On va pas nier la vérité.
Non, on va pas la nier.
Non, c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour toi, puis c'était pas facile pour les boxers. À l'époque, c'était pas facile pour les femmes en général. Les années 60, c'est là qu'il y a eu toute l'émergence du mouvement des droits des femmes. Comme on se rappelle, même ici, les femmes pouvaient pas aller dans les tavernes. Il y a eu des jugements aux États-Unis à peu près à chaque année pour élargir ça. Il y a même un État que l'âge légal, donc un adulte femme, c'était 18 ans, puis un homme, c'était 21 ans. Tu sais, c'est vraiment tout le temps ça, puis c'est la boxe, c'est ça que ça m'a appris. Il y a toujours des petites différences, tu sais.
Il n'y a pas si longtemps au Québec, si on regarde, nous, on est nés. Moi, je suis né en 82, toi aussi, si ma mémoire est bonne.
Exact.
Si tu regardes ça, jusqu'à, je pense, au début des années 70, les femmes avaient besoin d'un papier signé de la main de leur mari pour se faire opérer à l'hôpital. Là, les gens ne pensent pas à ça, mais c'est nouveau là, que le Québec est vraiment modernisé sur ce côté-là.
Oui, non, c'est ça, on n'était pas en avance, effectivement, mais je pense que ça remonte un peu plus longtemps, puis c'était bon, dans un petit livre que j'avais déjà vu, que c'était même pour travailler à la shop, là, dans les années 30, dans les années 40, il fallait que tu aies l'autorisation de ton mari. Fait que c'était, ben c'est ça, c'est tout. Évidemment, il y avait des boxers, mais c'était tout le temps caché. C'est ça qui est venu changer, c'est ça que ça a permis. En 75, tu as le premier permis de boxe par la commission du Nevada. Évidemment, Las Vegas, tu veux boxer là, tu es une femme, c'est là qu'il y a les bourses. Mais jusqu'en 75, tu pouvais pas. Puis une fois que tu peux, ben là, tu peux organiser des combats qui sont sécuritaires, des combats qui sont encadrés. Alors, c'est ça, Laurent. Premier permis de boxe. Donc, ça permet d'avoir des combats, enfin, des combats payés, mais surtout bien plus encadrés, bien plus de sécurité. Puis encore là, c'est comme en politique, hein. Non seulement les femmes ne peuvent pas voter, mais ne peuvent pas se présenter. Alors, c'est assez difficile de faire changer les choses.
Ah oui, d'ailleurs, depuis le début de la chronique, j'essaie de me rappeler c'est qui la première députée au Québec. Et c'est Thérèse Cassegrain.
Ben oui, non, mais tu fais bien de le souligner, que j'allais souligner la première PM dans le monde, mais comme j'ai
Pauline Marois.
Comment?
Non. Pauline Marois, non?
Une Sri Lankaise, mais malheureusement, son nom de famille, là, je risque de le maganer un peu, mais comme je t'aime bien dire des noms de famille, là, je vais le dire pour toi, Sirimavo Bandaranaike, 1960.
Ça se dit comme ça se prononce.
C'est ça. Et voilà, fait que c'est ça, c'est les années 70, ça a été gros, donc le début vraiment de la libéralisation de la boxe pour les femmes, surtout aux États-Unis, et ça a été suivi dans les années 80 ailleurs dans le monde. La Suède, c'est le premier pays qui a levé l'interdiction de la boxe amateur féminine, et après ça, ça l'a déboulé, là, l'Angleterre, l'Association internationale de boxe amateur des États américains, et là vraiment dans les années 90, c'est parti, mais je dis c'est parti, là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Gaël Grandchamp.
Non.
Non, c'est ça. Je pense que peut-être sa carrière n'a pas levé autant que ses efforts, mais elle a été 8 ans devant les tribunaux pour avoir le droit d'être une boxeuse. C'est quand même de l'engagement, puis c'est entre autres grâce à elle, parce que c'est vraiment, en fait, suite à son procès qu'elle a gagné, que là, l'association de boxe américaine puis plusieurs autres n'ont pas eu le choix de reconnaître. Puis c'est ça qui a mené au premier grand combat féminin de Christy Martin en 96.
OK. On a en 87 aussi, je ne sais pas si c'est dans tes recherches, Marianne Trémiard. Elle, elle avait fait la grève la faim dans l'État de New York pour avoir son permis.
Pour vrai? Mais, non, j'ai pas vu ça. Solide.
Non, mais je suis toujours surpris par les dates. 87, ça fait pas si longtemps que ça, Frédéric.
Non, c'est ça. Non, exact. Mais justement, une petite date là, qui justement, j'étais pas au courant. Il y a encore des pays que dans les années 80, il n'y avait toujours pas le droit de vote pour les femmes. Puis, admettons, si on y va quand même occidentalement, tu as la Suisse, que c'est en 73. C'est quand même surprenant, là, tu sais.
Il y avait des trous dans leur législation.
Oui, c'est ça.
Comme un chômage. Elle était bonne, ça, là.
C'était bonne. Okay. Ça a été super long. Puis c'est, en fait, là, évidemment, juste Christy Martin qui a vraiment contribué à rendre légitime la boxe. Là, il a donné un premier visage. Évidemment, elle a été suivie de Leila Ali, Lucia Reichker, Anne Wolfe. Mais c'est vraiment elle qui a été une des premières. Puis, aussi une des premières à ce moment-là, Madeleine Albright, première secrétaire d'État des États-Unis en 1997. Donc, c'est vraiment, on voit, là, je veux continuer, parce qu'il y a tout le temps, on dirait, au même moment que les boxeurs réussissent à avoir des avancements, les politiciennes réussissent à avancer au même instant.
Oh, peut-être faire un lien entre les deux. Mais encore aujourd'hui, cette semaine, je ne sais pas si tu as vu le combat entre Dicker et Shields, il y a vraiment une grosse différence. Au niveau des bourses, t'sais, on n'est pas encore complètement arrivé. Là. Un homme va faire à peu près 25 fois l'argent d'une boxeuse féminine.
Oui, non, c'est ouais, ben, tout à fait. C'est ça qui semble le dernier grand problème. Là. Il y a encore, ben, on le sait, des boxeuses qui doivent aussi mener des carrières en même temps que la boxe, là, qui doivent travailler. C'est déjà un travail quand tu es professionnel. Là, mais
faut que je te compte mon anecdote, Frédéric.
Vas-y.
Un jour, on se lève un matin, puis il y a un jeune homme qui a le spectre de l'autisme et qui est devenu un grand expert des arts martiaux. Okay? Okay. Il nous invite à aller le voir dans une grande compétition pour lancer un défi au champion qui est Adonis Stevenson à l'époque. Fait qu'on se déplace là-bas, puis il y a des athlètes à travers le monde. On veut parler au président de ADAMA, qui est l'Association des arts martiaux mixtes adaptés pour les gens qui ont le spectre de l'autisme ou des graves retards de développement. Alors, on fait ce qu'on a à faire avec le petit gars. Puis, à un moment donné, on veut parler au président de l'association, il n'est pas là. Fait qu'on parle à la vice-présidente. Puis là, elle me regarde et elle me dit « Êtes-vous le célèbre Laurent Poulain, vous? » Et là, elle me dit « J'ai été la première boxeuse professionnelle au Québec. Louise Provencher, une championne de karaté, premier combat féminin de l'histoire au Québec, un 5 juin 2001. Elle va affronter Nathalie Lacombe. Nathalie Lacombe, aujourd'hui, c'est la responsable des arbitres et c'est une employée de Post Canada comme moi. Fait que chaque fois que je plug ma compagnie, il me rajoute des heures de vacances.
Non, mais en plus, le lien est vraiment bon. Tu sais que tu l'as connu indirectement. Tu sais, même employeur, vous êtes quelques-uns à Post Canada, donc évidemment, tu l'as déjà croisé, là, tu sais.
Ouais, ben oui, j'ai croisé souvent, puis c'est vraiment la pionnière de au Québec.
Ah, tout à fait, ben c'est ça, ouais, ben c'est bien à savoir, parce que c'est ça qui mène à d'autres boxeuses, là, pour faire un peu la conclusion historique, c'était évidemment les Jeux olympiques de 2012, donc on est 100 ans plus tard, 100 ans après ceux de 1904, et on est de retour en Angleterre, et là, finalement, ça devient une discipline officielle.
OK. Là, j'ai l'air intelligent, parce que je l'avais préparé un peu la même chronique que toi l'année passée. J'ai tous mes souvenirs qui reviennent. T'en as pas parlé, mais pour le premier combat féminin d'histoire qui a eu un certain enjeu à l'époque, il n'y avait pas de ceinture, est-ce que tu sais c'était quoi l'objet que la gagnante pouvait remporter?
Tu veux que je le dise?
Oui, je veux que tu le dises.
Un beurrier en argent.
Une cloche à beurre?
Oui, c'est ça, j'ai appelé ça un beurrier. On a traduit comme on peut de l'anglais vers le français.
Non, toi, parce que t'es un gars qui a plus de vocabulaire. Là.
C'est ça. Oui, un beurrier, mais en argent. Je me suis dit, quand même, de l'argent, tu sais, c'est pas mauvais, mais ça restait dans de la vaisselle.
C'est quand même. Mais moi, ça me fascine. C'est les dates qui me fascinent le plus de penser que, tu sais, nous, on pense qu'on est évolué puis tout, mais ça fait pas si longtemps que ça. Puis quand tu regardes les bourses, tu sais, c'est. des montants. Hey, ça, je vais t'en compter une. Là. Kim Clavel, que tu écoutes à Big Brother, elle a annoncé que une semaine à Big Brother, c'est mieux que sa deuxième meilleure bourse en carrière. Elle fait 5000 piastres par semaine.
Eh hey boy, non, c'est ça.
En boxe, ça ne peut même pas espérer ces montants-là.
Non, non, c'est ça. C'est tellement rare. Là. J'ai vu justement, il y a Cathy Taylor, qui semble être la record woman des bourses.
Oui, mais, Cathy Taylor, elle... j'en ai une bonne pour toi. Elle était sur l'équipe nationale d'Irlande au soccer et un jour, elle s'est dit... Oh, je pense qu'on a mal dans les genoux à passer à la boxe, puis on a tout fait ce qu'elle a fait.
Ah ouais, OK, non, c'est ça. Toute une carrière, elle aussi, là, ça fait justement partie des gros noms des années 2010. Je pense qu'elle était aux Olympiques aussi, justement.
Elle a été la première à mettre la main sur une ceinture au retour des Olympiques. Aujourd'hui, elle se bat à 1 million du combat. C'est plutôt rare. Et merci d'avoir été là, Frédéric, et... On te garde sur le rond pour les semaines à venir.
Ben oui, certain. On voit d'autres situations. Puis on n'oublie pas, le combat n'est pas fini. Les femmes, plus qu'il y en a des boxeurs, plus que ça marche. Même chose côté de la politique. Hey, juste une anecdote pour toi pour conclure.
Vas-y.
En fait, une anecdote positive puis une négative pour faire réfléchir. Tu veux dire la positive ou la négative?
La négative.
La négative. On a 6% des chefs de gouvernement ou d'État qui sont des femmes. Donc, en politique, il y en a de plus en plus. Il y a des gros noms, on entend parler. Il y a des bonnes premières ministres femmes, mais c'est seulement 6%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, il y a de plus en plus de députés. Là. Il y a certains pays comme le Rwanda, c'est 61% qui sont des femmes. Donc, ça. C'est positif et négatif. Mais le positif, ou plutôt le surprenant, c'est que j'ai trouvé que sur les PDG des 1500 plus importantes entreprises américaines cotées en bourse, il y a plus de John que de femmes.
Oh, ça, c'est triste.
Ouais, non, c'est sûr que des monsieur John de 50 ans, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là.
Des John quand Smith. Même, tu sais. Mais il n'y a pas de danger avec nous parce que moi puis toi, on aime beaucoup les femmes, fait qu'on leur laisse toute la place.
Ben voilà, puis vive les rounds de 3 minutes.
Ouais, merci. Ça, c'est un autre sujet. Merci, Fred. À la prochaine.
Ouais, merci, Laurent. Bon combat ce soir.
Merci, on se reparle.
Parfait, salut. Bye.
Toujours en direct pour la conclusion. Dans les prochaines semaines, c'est clair que je vais être tout feu, tout flamme. Je vais essayer de trouver... Écoute, il va falloir qu'il nous l'annonce un jour. Batir Shkenbaev, son prochain combat, ça devrait arriver. Arslanbek Makhmoudov, Eric Badinian, Christian Mbidi... Tout ce beau monde-là, faut qu'ils se battent bientôt. Yves Ulysse, on nous avait parlé du mois de mai. Il y a la carte d'Yvon Bichel le 16 mars qu'on va suivre. Donc, tout ça demeure quand même, je vous dirais, assez intéressant. Là, tu vois, la boxe québécoise, est comme c'est un palier. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont assis sur la deuxième marche, puis... On dirait que tout va bien tomber en fin d'année. On va avoir les gros combats. Là, c'est plus des petits tests. Là, on se prépare pour les grandes choses. Arthur Beterbiev se bat dans 2 semaines. J'avoue que c'est un petit peu plus dur de s'énerver quand l'adversaire, c'est Adam Dane. Mais on reste connecté. Je continue à tout surveiller pour vous. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Rive-Sud, mais jamais je perds le Nord. C'est n'importe quoi, les gars ont plus que faire un choc. Ça passe des trucs, mais je vois rien les alentours. Ça dit chaud devant, mais moi je leur donne froid dans le dos. Classe ouvrière, on rêve de bourgeoisie. Ils veulent embrocher un pas, sous l'acquis. J'amène la vague, rendu le sud tsunami. C'est triste, j'ai tellement fait le tour, maintenant y'a plus de magie. Trop de bullshit, j'pense les gars sont contagieux. Ça dit que ça passe le mot, mais ils ont pas le bon password. J'veux mon bread, j'veux ma paye, yeah, j'veux chaque bonus. Chauve-souris, c'est mon patronus.
One thing you need to learn. Magic is never far. The devil's trying to burn us all. Gonna have to go and show them how.
What the hell, Beelzebub. Des fois j'écoute descendre tout le monde. Permis.